est douleur, sarvam, dukkham, tout est souffrance. Et les réincarnations successives sont des malédictions qu'il faut finalement surmonter, et que d'ailleurs tout le monde pourra surmonter un jour ou l'autre. Alors je vais aller assez vite, c'est un texte qui parle du désir et de la souffrance. Ce texte nous dit la douleur extérieure concerne le corps et prend sa source dans quelques défauts des constituants de l'organisme, c'est la maladie. Mais la douleur intérieure est de nature mentale et procède du désir. Et là, le bouddhisme est déjà là, procède du désir. Parce que nous désirons, nous souffrons. Des deux, c'est la douleur mentale qui est la plus grande, elle dévore l'univers entier. Le désir est la graine vigoureuse de l'arbre de la douleur, etc. etc. Et la fin du texte, l'homme, lui, est habité par des milliers de désirs. Comment le fait de rencontrer ça et là quelques plaisirs pourrait-il suffire à le rendre heureux? Il vaut mieux être un animal dont les désirs, comme un moucheron par exemple, dont les désirs sont beaucoup plus modestes, parce qu'il souffre moins. La condition humaine est donc marquée par le désir qui est la source de la souffrance, et le désir qui produit sans cesse l'illusion, la maya. Et donc finalement toutes nos perceptions, que ce soit la perception du monde ou la perception de notre moi, sont des perceptions illusoires. C'est ce monde de la diversité qui est une illusion, et qu'il faut pouvoir traverser pour remonter à l'unité de l'être. Là, les photos, je m'aperçois que j'ai oublié de commenter les photos au fur et à mesure, mais bon, là, c'est, tout le monde reconnaît une crémation au bord du Gange. Bon, c'est très significatif, la crémation, c'est vraiment l'idée que l'âme doit se séparer de ce corps avec lequel elle n'a, au fond, rien à voir. Rien à voir. Donc, comme je le disais, l'accomplissement de la piété religieuse, c'est la libération du moi. Je lis simplement les deux derniers paragraphes de ce. C'est un extrait de la Bhagavad Gita. L'homme qui abandonnant tous ses désirs va et vient, libre d'attachement, ne dit plus c'est à moi, ni je. Celui-là accède à la paix. Tel est l'état brahmique. Qui l'a atteint ne s'égare plus. Qui sait s'y maintenir, même à l'heure ultime, atteint l'extinction, nirvana, en brahman, c'est-à-dire dans l'absolu. Donc voilà, le chemin religieux des religions de l'Inde, c'est la libération du moi. La libération du moi pour rentrer dans l'absolu impersonnel. Alors, je vais passer assez vite pour arriver un petit peu à une mise en dialogue avec les perspectives chrétiennes. Un mot donc sur les castes. Alors le mot caste est un mot inadapté qui vient du portugais, qui veut dire séparé, quoi. C'est le même mot que chaste. En fait, les castes, les jatis, sont plutôt des groupements souvent professionnels, des corps de métier qui s'organisent selon une certaine structure, et toute la société est structurée par ça. Ce qui est important, c'est de comprendre que les castes ont un fondement métaphysique. Il ne s'agit pas de dire que c'est une organisation sociale un peu périmée, qu'on va faire évoluer. Alors, même si je sais très bien qu'aujourd'hui, il y a des gens éminents qui contestent au sein même de l'hindouisme le système des castes. Mais malgré tout, le fondement des castes, il est métaphysique, puisque, rappelez-vous, il dérive du sacrifice primordial. Et là, on retrouve les quatre grandes castes, les quatre grandes échelles dans les castes, les brahmanes, les guerriers, les artisans, et puis les sudras, donc, qui sont les castes inférieures, impures. Alors, quelques brefs extraits de textes mystiques. à quoi bon étudier, à quoi bon réfléchir, à quoi bon écouter, chanter les Écritures, à quoi bon lire et écouter, si l'on n'a pas fait l'expérience de l'absolu. Alors, les poèmes du pèlerin de Tukaram. Où que j'aille, tu es le compagnon qui me tient la main et me conduit. Sur cette route où je chemine, tu es mon seul soutien. À mes côtés, tu portes mon fardeau. En marchant, si je divague, toi tu me redresses. Tu as brisé mes résistances. Ô Dieu, tu m'as poussé en avant. Tous les êtres, tous les hommes sont devenus mes frères bien-aimés. Maintenant ta joie me pénètre et m'entoure, dit Tuka. Je suis comme un enfant qui joue dans une fête. Alors, bien sûr, quand on lit des poèmes comme ça, on ressent une espèce de climat monothéiste, c'est-à-dire, bah tiens, c'est un homme qui s'adresse à son Dieu avec une dimension d'intimité, de dévotion, d'amour, on pourrait dire. Hein. Bon, voilà. Il ne faut pas se leurrer, hein, derrière ces images, ces anthropomorphismes, selon les religions de l'Inde, hein, il y a véritablement l'affirmation d'un Dieu qui est profondément impersonnel. Sauf, il est vrai, pour la dévotion populaire qui a toujours besoin de personnaliser. Alors, donc maintenant, j'arrive à la deuxième partie qui sera plus courte, mais au fond, est-ce que, ne serait-ce que pour marquer une toute petite pause, est-ce que vous souhaiteriez exprimer une question ? Alors, sachant que je m'empresse de dire que si c'est des questions techniques, j'aurais certainement pas la réponse. Le sujet étant tellement riche et vaste. Hein. Mais est-ce que voilà. Là, je ne sais pas, il faudrait interroger quelqu'un qui vit en Inde. Est-ce qu'on s'aperçoit que la société indienne, elle n'est pas du tout hostile à la modernité, par bien des côtés, hein, et qu'il y a cette espèce d'ambivalence on trouve ça aussi au Japon. Hein, le Japon peut être à la fois ultra traditionnaliste dans ses références religieuses, et puis alors ouvert à une modernité technique. Voilà. Mais alors comment la synthèse se fait, là, je ne peux pas y répondre. Alors, donc quelques mots. Alors vraiment, j'ouvre là un dossier compliqué et infini. Hein. Comment deux traditions aussi radicalement différentes, voire opposées, que les traditions bibliques d'un côté et les traditions de l'Inde de l'autre, peuvent s'interpeller mutuellement, se rencontrer, peut-être, certainement, constater leurs différences. Mais pourquoi pas s'approfondir l'une dans le regard de l'autre. C'est aussi l'un des bienfaits de la rencontre, c'est que l'autre m'oblige à être un peu plus moi-même et à me remettre en question ce qui me paraissait évident, par exemple un Dieu personnel. Quoi de plus évident pour un chrétien qu'un Dieu personnel ? Or, pour une grande partie de l'humanité, ça n'a vraiment rien d'évident. C'est même quelque chose comme une forme de presque d'infantilisme religieux. C'est-à-dire, c'est projeté sur Dieu. D'ailleurs, c'est la critique que fera l'athéisme. L'athéisme aura beau jeu de critiquer la religion chrétienne, en particulier en disant, bah oui, on projette sur Dieu tous les attributs qu'on trouve dans notre humanité, et on les projette à l'infini, mais ça s'appelle Dieu. Donc ces questions-là ne nous viennent pas que de l'athéisme, nous viennent aussi de ces grandes religions de l'Inde. Alors, avant de rentrer dans les petites réflexions, d'abord, place aux témoins. J'espère que vous avez tous entendu parler, en tout cas ce soir, comme ça vous le découvrirez si ce n'est pas le cas, du père Jules Montchanin, qui est un prêtre lyonnais, intellectuel, qui a été un ami du père de Lubac, hein, et quelqu'un qui, à un moment donné de sa vie, alors qu'il vivait ici, donc il était, euh, il était à, Il a été notamment vicaire à Saint-Vincent, sur le quai de Saône. A senti une espèce d'appel vers l'Inde. Il s'est mis à étudier le sanskrit, s'est mis à étudier les religions de l'Inde. Et puis un beau jour, son évêque a permis qu'il parte en Inde, créer une espèce de petite cellule monastique, où d'ailleurs il a commencé tout seul, hein, un petit ashram, un petit monastère chrétien en terre de l'Inde, hein, pas tellement pour convertir des Indiens, mais d'abord pour essayer de se mettre en présence de cet univers religieux qui n'était pas le sien, et dont il espérait, j'allais dire, découvrir la profondeur et peut-être approfondir sa propre foi chrétienne, peut-être la dilater dans le miroir de l'hindouisme. Et alors il a été suivi quelques années plus tard, je ne me souviens plus bien combien d'années plus tard, par un moine bénédictin de l'abbaye de Kergonan qui s'appelle Don Le Sceau, hein, qui a fait le même type de cheminement. Donc ils ont vécu ensemble dans leur petit monastère, et puis après Don Le Sceau est parti de son côté, et puis d'autres sont venus. Bon. Voilà. Alors quelques citations. Vous aviez entendu parler de Jules Montchanin et de Don Le Sceau, hein. Donc il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur eux. Ce sont vraiment de grands, grands aventuriers de l'esprit. Mais il faut dire ce qui est, ce sont des aventuriers qui ont touché des limites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, enfin, on peut penser qu'ils ont vraiment frôlé les abîmes, quoi. Parce qu'à un moment donné, voilà, Dieu est-il le Dieu personnel qui m'appelle, qui suscite ma liberté, qui m'aime, hein. Quand on est face à ces religions de l'Inde, il y a quelque chose qui peut vaciller. Alors voilà ce qu'écrivait Jules Montchanin. Alors, vous voyez, c'est dans le sens d'un enrichissement réciproque. Je pense qu'il parlait moins comme ça à la fin de sa vie, mais en tout cas, voilà ce qu'il disait à ce moment-là. L'Inde doit donner à l'Occident un sens plus aigu de l'éternel, de la primauté de l'être sur le devenir. Ben oui, c'est l'idée que la tradition occidentale, qui est cette tradition qui valorise le temps orienté, et donc le temps de la liberté, de l'engagement, de la construction, parfois est un peu prise de frénésie et oublie ce temps intemporel qui est le temps de l'être. Hein, bon, voilà. Et là, peut-être que l'hindouisme nous dit quelque chose. Mais en sens inverse, l'Inde doit recevoir en retour de l'Occident un sens plus concret du temporel, de la personne, ben évidemment. De l'amour. Voilà, de l'amour. Bon. Évidemment, si tout est illusion, quel prix a un attachement humain, quel prix a l'amour, etc. Si finalement le seul but de ma vie, c'est la libération de mon moi, quel est le sens de fonder une famille, ouvrir une histoire, construire une école, enfin bon. Alors voilà, en tout cas, voilà ce qu'il disait à ce moment-là. Et puis, et c'est pas étonnant, le questionnement que l'hindouisme apporte à cette idée du Dieu personnel, et ça c'est très précieux pour un chrétien, l'oblige à aller au cœur de sa foi, c'est-à-dire au cœur du mystère de la Trinité, d'un Dieu qui est un Dieu relationnel, un Dieu qui est en lui-même relation. Et voilà pourquoi Jules Montchanin dit, hein, ici, « Je voudrais tant que naisse de ma vie une vie contemplative trinitaire qui assume, purifie, transfigure toute la pensée, tout l'art et toute l'expérience de l'Inde. » C'est évidemment difficile à dire en quelques mots, mais tous les grands spirituels chrétiens qui se sont frottés à l'hindouisme, au bouddhisme, aux religions orientales, ont tous été renvoyés au mystère de la Trinité. D'un Dieu qui est un Dieu communication de soi, relation en lui-même, et non pas une espèce de Dieu monolithique qui un beau jour dit « Tiens, on va faire une création. » Voilà. Et effectivement, ça ne tient pas, cette vision de Dieu. Mais la vision du Dieu trinitaire qui est en lui-même courant, circulation d'amour, et la création comme un débordement de cet amour, ça peut tenir. Et donc, c'est toute la profondeur de la notion de personne. Évidemment qu'un chrétien passe son temps à projeter sur Dieu sa perception de la personne. Mais en même temps, il doit se souvenir que la notion même de personne, a été inventée dans les premiers siècles chrétiens, de la contemplation du mystère trinitaire. Ce qui a été premier, et ça c'est historique, si vous voulez, je fais pas de la catéchèse historiquement, je veux dire, qu'est-ce qui a été premier? C'est la contemplation du mystère trinitaire par les pères de l'Église. C'est en fait la contemplation de la personne du Christ. Qui est le Christ? En quoi est-il l'être personnel par essence? Et c'est seulement à la lumière du Christ que je peux me comprendre comme une personne pas si personnalisée que ça, en voie de personnalisation. Alors vous voyez, ce qui est premier, c'est pas l'individu qui projette sur Dieu, c'est son image de la personne. C'est le mystère personnel qui est en Dieu. Bon. Mais là, on est au cœur, vraiment, pour le coup, de la foi chrétienne. Donc, tout ça pour dire que l'hindouisme nous interpelle. Enfin, je parle là en chrétien, j'ai le droit après tout. J'assume, nous interpelle, en tout cas m'interpelle, en me disant, mais attention, quelle conception as-tu de la personne et que projettes-tu sur Dieu? Bien sûr qu'on est toujours tenté de faire des idoles et de projeter sur Dieu des attributs humains. Mais justement, ce qui est fort dans le monothéisme, c'est de dire que Dieu est au-delà de toutes ces idoles. Donc on peut dire que Dieu est au-delà du personnel, si on entend par personnel notre conception individuelle de la personne. Bien sûr que Dieu est au-delà de la... Et c'est ce que dit le mystère trinitaire, au fond. Voilà. Alors, deuxième, c'est une conséquence, hein, puisque... Mais autre lieu de débat, disons, entre l'hindouisme et aussi le bouddhisme, et puis la révélation chrétienne... Eh bien, c'est le débat entre deux anthropologies, deux visions de l'homme que beaucoup de choses opposent. Et tout ça est résumé en deux mots qui sont, on ne peut plus opposer l'un à l'autre, d'un côté la réincarnation et de l'autre la résurrection, qui sont deux mots absolument contraires, qu'on ne peut confondre. Alors, approfondissons un tout petit peu. Dans la conception indienne, alors d'abord... quelle est la grande logique de cette croyance en la réincarnation? C'est profondément logique puisque ça procède d'une stupeur par rapport aux inégalités naturelles. Et comment se fait-il que l'un de nous naît avec un corps en bonne santé alors que l'autre naît avec un lourd handicap? Et comment se fait-il que l'un naît dans une famille riche, aisée, alors que l'autre naît dans un bidonville? Et comment se fait-il? Voilà. Tout cela n'est-il pas injuste? Comment le Dieu ou le divin peut-il permettre de telles inégalités? Eh bien, pour comprendre cela, la doctrine de la réincarnation donne une clé d'interprétation, puisqu'elle dit, eh bien, il ne faut pas penser que c'est Dieu qui est injuste, il faut penser qu'au contraire, dans sa justice, en tout cas plutôt dans la justice de l'ordre des choses, du karma, notre situation présente, si elle est marquée par le mal, par des blessures ou des handicaps, c'est parce que c'est la conséquence de fautes. Et donc c'est une interprétation morale des inégalités entre les êtres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous naissez boiteux ou avec une maladie, ben c'est la conséquence d'une faute, mais d'une faute évidemment que vous n'avez pas eu le temps de commettre dans le sein maternel et donc que vous avez commis dans une vie antérieure. Donc tout ça est très logique, il y a une cohérence de cette doctrine. Alors dans la vision anthropologique de l'hindouisme, donc l'âme individuelle, non pas l'atman de tout à l'heure, cette âme qui est en quelque sorte greffée sur l'absolu, mais l'âme égoïste, narcissique, le petit moi, cette âme individuelle a quand même une certaine consistance. Pourquoi? Parce que, là aussi c'est très logique, si vous dites mon âme s'est réincarnée dans un autre corps, il faut bien qu'il y ait mon âme, quoi. Il faut bien qu'il y ait un substrat, quelque chose qui fasse le fil rouge, en quelque sorte, des réincarnations. D'accord? Donc ce substrat, c'est la jiva, c'est l'âme individuelle, qui, selon la qualité de ses actes, va se réincarner dans des êtres plus ou moins élevés. Quoi qu'il en soit, plus ou moins longue, ces réincarnations cesseront. Et toute personne finira par détruire ce karma qu'il enchaîne à ses réincarnations. Toute personne réussira à effacer le mal et finalement dépasser son individualité dans l'absolu impersonnel. Voilà. Alors cette libération finale, elle vient bien sûr de mes efforts, de mon ascèse, des sacrifices aussi que je pratique, bon, mais aussi d'une espèce de grâce des dieux qui est donnée en surplus. Et là, il y a cette idée que les efforts ne suffisent pas, il y a quelque chose spirituellement de très juste. C'est aussi une grâce des dieux qui fait que je peux être libéré de mon moi. Donc tout cela est très logique, très cohérent, ça a un sens, c'est pas absurde, loin de là. Mais en quoi donc ça contredit la conception biblique de la personne? Alors là, c'est l'occasion de dire des choses qu'on dit pas forcément souvent dans le monde chrétien, parce que peut-être elles nous paraissent évidentes, mais elles ne le sont pas tant que ça. Pour l'anthropologie biblique, qu'est-ce que la personne? C'est ni son corps ni son âme, c'est l'unité. Du corps et de l'âme, du corps et de son âme, qui sont en quelque sorte les deux versants d'une même réalité. Ça n'est pas une âme qui se promène dans un corps, c'est l'âme, forme même de mon corps, forme vivante de mon corps. Et la Bible ajoute que cette âme est une âme spirituelle, c'est la fameuse anthropologie tripartite de la Bible, corps, âme, esprit. Je vous le rappelle, si l'âme est la forme du corps en langage philosophique, c'est-à-dire l'âme est la structure, la vie du corps, la vie naturelle du corps. Mais l'esprit est la vie surnaturelle de l'âme, l'esprit est la source surnaturelle de l'âme. Fait que l'âme surgit de son créateur. Donc ça, c'est l'anthropologie tripartite. Corps, âme, esprit. Alors saint Paul, dans les lettres, dit que votre personne tout entière, et il cite, dans le sens inverse, mais peu importe, il dit l'esprit, l'âme et le corps, que votre personne tout entière. De sorte que l'anthropologie biblique est une anthropologie qui est unitaire. Et alors ça, c'est très important pour quand on lit la Bible, parce que souvent dans la Bible on lit mon âme a soif du Dieu vivant, mais en réalité toutes les catégories bibliques renvoient toujours à l'unité de la personne. Donc quand on dit mon âme a soif du Dieu vivant, c'est une façon littéraire de dire toute ma personne aspire vers Dieu. Voilà. Et quand on dit le corps du Christ, on ne dit pas la viande du Christ ou son squelette. On dit la personne tout entière du Christ. Et oui. Le corps du Christ, c'est la personne tout entière du Christ. Donc l'anthropologie biblique est une anthropologie qui est unitaire, qui unifie les trois grandes dimensions, corps, âme, esprit. Et la personne, c'est l'unité de ces dimensions. Ce qui va contredire également l'anthropologie indienne, c'est qu'il n'y a pas des vies successives, d'une âme qui pérégrine dans des corps successifs, il n'y a qu'une seule vie. Une seule vie terrestre, unique, irréversible, et ça c'est le caractère dramatique, alors ça choque beaucoup les Indiens, les Hindous, ce caractère dramatique d'une seule vie, où je n'ai pas en quelque sorte de deuxième chance pour mon salut. Il y a quelque chose d'irréversible qui engage mon éternité. La résurrection, donc, n'est pas du tout la libération du corps, au contraire, la Bible insiste contre toute la tradition grecque. Donc avec beaucoup de provocation sur le fait que la résurrection, c'est quoi? C'est le relèvement de toute la personne, corps et âme, dans l'Esprit Saint. Dans la Bible, le mot résurrection, c'est le mot relèvement. Et vous savez, quand saint Paul prêche à Athènes, il se met à prêcher la résurrection des corps, les gens lui disent on t'écoutera là-dessus une autre fois. Pourtant, les Athéniens adoraient les doctrines nouvelles, débattre et tout, mais quand il s'est mis à parler de la résurrection des corps, voilà, c'est vraiment la chose qui n'était pas pensable. Voilà, la résurrection, c'est le relèvement de la personne dans son intégrité, corps, âme, esprit. Et puis, donc, ce qu'il faut appeler le salut, notion bien disparue dans les églises chrétiennes, mais quand même fondamentale, le salut n'est pas la délivrance. Le salut n'est certes pas la délivrance du moi. Oui, du moi égoïste, narcissique, de l'individu, prison, certainement oui. Ça s'appelle le péché en langage chrétien. L'individu emprisonné en lui-même que dénonce l'hindouisme, ça s'appelle le péché. Et oui, on en sera libéré, évidemment. Mais on n'en sera pas libéré dans une extinction dans l'impersonnel, mais au contraire dans l'assomption de la vraie personne, de la personne unique que je suis aux yeux de Dieu, et que je ne connais d'ailleurs pas bien, puisque seul Dieu me connaît vraiment, l'assomption de la personne unique que je suis dans l'absolu personnel, dans cette communion trinitaire. C'est ça la résurrection. C'est ça le salut. C'est l'assomption de la personne, non pas ça, son extinction. Et vous voyez que là, on est amené à constater les différences profondes qui séparent ces deux anthropologies-là. Il nous reste 10 minutes, éventuellement, pour réagir. Alors, je serais plus à l'aise si on parlait de ces questions de débat interreligieux que de questions techniques sur telle ou telle facette de l'hindouisme que je connaîtrais probablement pas. Mais place à ceux qui veulent poser telle ou telle question. Oui, il peut y avoir animal, bien oui, la réponse est toujours oui, et dans certains courants de l'hindouisme, même végétal, pourquoi pas. Bon. Il peut y avoir régression, sachant que finalement, tout le monde, tôt ou tard, finira par la libération définitive. Voilà. De toute manière, il y a de liberté. Oui. Ah ben, finalement, mais au terme de millions d'années qui nous échappent de toute façon. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas penser le libre arbitre sur un modèle personnaliste, quoi. Ça, c'est clair. Il y a cette loi du dharma. Qui, je crois, fondamentalement, est une loi de bienveillance, c'est-à-dire que finalement, qui entraîne chacun, s'il le veut bien, vers un chemin de libération. Voilà. Mais la liberté personnelle, ça suppose la notion de personne. Donc. Ouais, l'idée d'un monde cyclique, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a des astrophysiciens qui tendent à mais là on est toujours dans une forme de concordisme. Alors moi je suis mal à l'aise avec ça dans le monde chrétien, alors je vais avoir du mal à le soutenir dans le monde indien, mais qui ont tendance à dire ben finalement si le Big Bang se poursuit par une implosion de l'univers, pourquoi pas un nouveau Big Bang, et donc finalement un univers cyclique. Bon. Voilà, pourquoi pas, voilà. Bon, donc, d'autres choses, peut-être par rapport à ces interpellations mutuelles, moi c'est ce qui m'intéresse le plus, j'avoue, ouais. Il y a bien un dicastère du dialogue interreligieux, donc il y a certainement des instances qui réfléchissent, certainement, oui. Mais alors quel est le fruit de leurs travaux, ça je sais pas, ça doit être assez compliqué. Mais. Surtout qu'il n'y a pas du tout d'unité, de toute manière, même des métaphysiques hindoues, quoi, c'est ça qui est. Par exemple, il y a des courants de l'hindouisme qui ne croient pas en la réincarnation, qui disent au fond c'est même pas fondamental dans l'hindouisme. Donc c'est pour dire que voilà, c'est certainement pas évident. De toute façon, on n'envisage pas, hein. C'est comme disait monsieur, hein, c'est la loi, c'est pas vous qui choisissez. Pourquoi pas? Pourquoi pas? certainement. Certainement, oui. Pourquoi pas? Peut-être par la tradition biblique, hein, bien plus anciennement que par le Christ. Oui. Oui, oui, tout à fait. Alors, dans l'ordre de la connaissance de l'autre, c'est évident que les sciences des religions, bon, ont fait des progrès fantastiques, quoi. Et que de toute façon, la connaissance des mythes égyptiens, babyloniens, tout ça, bon, elle est, je dis pas qu'elle est sûrement pas parfaite, évidemment, mais elle ne cesse de progresser. Et certainement que ça donne des éléments de compréhension. Voilà. Après, il faut, comment dire, le but n'est pas de dire finalement on va trouver un point de vue duquel tout est compatible. Parce que personnellement, moi je pense que la métaphysique, enfin de la personne, en tout cas l'anthropologie hindoue ou bouddhiste et l'anthropologie chrétienne sont fondamentalement distinctes. Les confronter, c'est très intéressant parce que ça permet de purifier ce que nous prenons pour une anthropologie chrétienne, qui est souvent une anthropologie dégénérée, c'est-à-dire nous, au fond, je vais lâcher le morceau, nous confondons la personne avec l'individu. Et quand nous disons personne, nous pensons individu. Et c'est quoi l'individu? C'est l'atome social, crispé sur lui-même, à distance des autres, en compétition. Or ça, ce que je disais un peu tout à l'heure, ça c'est pas la personne, ça c'est le péché. Le véritable sens de la personne, c'est la personne communion, c'est la personne trinitaire. Et ça, voilà, ça c'est le sens de la personne. Bon. Alors si le bouddhisme, la critique très, très forte que fait le bouddhisme de la notion de personne nous permet de purifier nos conceptions, elle nous permettra sans doute d'être beaucoup plus chrétiens et beaucoup plus profondément. Voilà, mais moi je vois un petit peu les choses ainsi. Il peut y avoir une purification mutuelle, mais il n'y aura pas de confusion. Il y a des différences qui sont des différences profondes. Voilà. Pour la compréhension, bien sûr. Complètement. Oui, tout à fait. Une dernière question. Alors, bon, je pense que ça a été la séance un peu difficile parce que l'hindouisme, bon voilà, j'ai certainement laissé de côté des choses importantes, mais je voulais vraiment faire sentir la dimension, quelle est la conception du divin, voilà, qui traverse ces religions et quelle conception de l'homme cela engendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le bouddhisme, qui est né dans cet univers-là, on va avoir affaire à une espèce de simplification et de radicalisation d'un univers religieux en une sagesse toute humaine, qui est la sagesse du Bouddha, et qui du coup va apparaître comme un chemin spirituel extraordinairement à la fois rigoureux et simple. Et donc ça sera ce qu'on fera la prochaine fois, donc je ne vais pas commencer aujourd'hui. Mais dans cette luxuriance métaphysique de mythes, de symboles, Bouddha est celui qui va apparaître comme une espèce de super laïque en disant la question des dieux, on s'en fout, la question des mythes, on ne sait pas, même le nirvana, on ne sait pas ce que c'est. Ce qui compte, c'est comment, dans un monde de souffrance, je peux atteindre à la libération. Et ça va être le chemin du bouddhisme. Il n'empêche que cette sagesse, dont certains disent un peu vite qu'elle est athée, cette sagesse va elle-même ensuite proliférer en religion. Refouler le religieux, il ressort toujours d'une manière ou d'une autre. Et donc, à 90%, le bouddhisme aujourd'hui est une religion, et non pas, comme dit Comte Sponville, une religion athée, c'est pas vrai. Mais le bouddhisme de Bouddha, quelque part, peut être considéré comme une sagesse athée, oui. Ah si, pardon, si, j'ai oublié, alors c'est vrai, j'en ai pas parlé. Pas la conversion, mais à l'extension naturelle dans des aires du sud-est asiatique. Il y a des grands pays où l'Inde...